أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. أما بعد، toutes les louanges vont à Allah, mes frères. Toutes les louanges vont à Allah qui est le Seigneur des mondes. Toutes les louanges vont à Allah qui a créé les cieux et la terre et a établi les ténèbres et la lumière. Et pourtant, les non-croyants donnent des égaux à leur Seigneur. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah, l'unique, sans associé. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Son Seigneur le Très-Haut l'a envoyé comme guide, comme annonciateur et comme avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a ravivé les cœurs. Par lui, Allah a éclairé les esprits. Par lui, Allah a fait que les oreilles entendent et que les yeux voient. Que les prières et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ainsi que sur ses compagnons. Allah dit de lui, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, la semaine dernière, nous avions commencé à évoquer la première partie de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce, jusqu'à la révélation des premiers versets du Coran. Nous avions vu que Allah le Très-Haut avait mis en lui un excellent modèle avant la révélation comme après la révélation. Nous avions vu qu'il était analphabète, il ne savait ni lire ni écrire, mais que malgré cela, Allah avait choisi son cœur pour y placer la révélation divine. Nous avions vu également une partie de son enfance, sa mère, Amina, qui raconte que lorsqu'elle le portait dans son ventre, elle n'a jamais senti les désagréments de la grossesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam grandit également en tant qu'orphelin, puisqu'il perdit son père pendant la grossesse et sa mère lorsqu'il était encore enfant. Nous avions vu également l'épisode où les deux anges envoyés par Allah lui avaient ouvert la poitrine, retiré son cœur, puis lavé son cœur, retiré le petit morceau, le point noir du cœur, qui contient la jalousie et la haine, la trahison et la rancune. Puis ensuite, ils l'ont lavé dans de l'eau de Zamzam. Puis ensuite, ils ont rempli son cœur, grâce à Allah, de sagesse et de foi. Nous avions vu comment il grandit dans la Mecque, dans la ville de Mecca, dans la dignité et dans la fierté. Nous avions vu comment jamais il ne s'abaissa devant une idole, comment jamais il ne but de boisson enivrante, comment jamais il ne commit ni de vol, ni de traîtrise, ni de mensonge ou de tricherie. Nous avions vu les signes de la prophétie avant la révélation, comme lorsqu'il croisait un rocher ou un arbre, et bien celui-ci lui disait « Assalamu alayka ya Rasulullah, salut à toi, ô messager d'Allah ». Nous avions vu également comment, et bien lorsque les Quraysh entreprirent de reconstruire la Kaaba et qu'ils eurent une dispute à propos de qui devait remettre la pierre noire, ils s'en remirent au jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions vu également comment il semblait avoir compris que ses concitoyens s'étaient trompés dans la conception de leur vie. Alors, il se retirait à quelques kilomètres de la Mecque, dans les hauteurs, dans une grotte, la grotte de Hira, sur le mont An-Nur, Jabal An-Nur. Et lorsqu'il méditait, un jour, Jibril alayhi salam fut envoyé par Allah le Très-Haut. Il le surprit dans la grotte et nous avions vu comment les premiers versets du Coran étaient descendus. Ces premiers versets qui disaient « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le plus noble. » Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quitta la grotte à ce moment-là. Il descendait de Jabal an-Nur en regardant le ciel, car il fut surpris d'y voir que Jibril était assis sur un trône entre le ciel et la terre. Il retourna tout tremblant chez lui, auprès de sa femme, son épouse Khadija, radiyallahu anha, et il dit, couvrez-moi, couvrez-moi. Et il ajouta, j'ai craint pour ma vie. Alors il raconta tout à Khadija. Il lui raconta ce qu'il venait de vivre, et sa femme lui répondit d'une réponse pleine de vérité. Elle lui dit, je te jure par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Pourquoi ? Parce que tu maintiens les liens de parenté, tu composes avec tout le monde, tu assistes les nécessiteux, tu donnes l'hospitalité aux hôtes et tu aides à faire triompher la vérité. Mes frères, mes sœurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mit alors à prêcher son peuple, à appeler vers Allah. Il s'attacha pendant 23 ans à accomplir sa mission qui était de sortir les gens des ténèbres vers la lumière. En toute modestie. Je dis en toute modestie, car il avait l'habitude de dire à ses compagnons, ne me déifiez pas comme certains chrétiens ont déifié Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah, dites donc de moi, le serviteur d'Allah et son messager. Donc nous autres musulmans, nous appliquons son conseil et nous disons, Mohammed, le serviteur d'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout, mes frères, mes sœurs, il est du devoir de la communauté musulmane de mettre en avant, de mettre en évidence la vraie nature du messager d'Allah. Il est également du devoir des responsables, des intellectuels, des imams, de le citer dans les assemblées, lors des discours, de mentionner la grandeur de sa personnalité, la grandeur de son message. Car en effet, la plupart des grands de ce monde auxquels les gens font référence aujourd'hui sont tout simplement insignifiant devant la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est notre modèle, est notre imam. Il est l'imam des gens de la foi. Il est l'imam de ceux qui prient 5 fois par jour. Il est l'imam des véridiques et des sincères. Il est l'imam des rapprochés d'Allah. Quant aux gens fourbes, ils ont aussi leur propre dirigeant. Ils ont aussi leur propre imam. En effet, Allah le Très-Haut dit à propos des êtres humains le jour du jugement dernier, ce jour-là, nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur imam. Nous demandons à Allah le Très-Haut qu'il rende forte et sincère notre fidélité envers notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères dans la foi, il y a de nombreuses leçons dont nous devons profiter dans ce que nous avons entendu de la première partie de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut tout d'abord retenir que le messager d'Allah n'était qu'un être humain, c'était un homme avant tout. Ensuite, rendons-nous bien compte qu'il était orphelin d'une part et analphabète d'autre part. Nous allons essayer de détailler ces 3 facettes s'il plaît à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme et cela provient d'une sagesse divine. Car Allah dit dans le Coran, si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Cela signifie que si Allah nous avait envoyé comme prophète un ange, nous aurions été tout simplement incapables de le suivre. Nul humain n'aurait pu le suivre au jour le jour pour nous conter sa vie et ses pratiques. Nous n'aurions jamais eu accès à sa biographie complète. Mais Allah a fait qu'il fût un humain comme nous. Le message divin nous est transmis à travers sa vie. Il avait faim et soif, comme il nous arrive d'avoir faim et soif. Il dormait comme nous dormons. Il s'est marié comme nous nous marions. Il était de bonne humeur, mais il lui arrivait aussi d'être contrarié pour Allah. Il riait et il pleurait. Bref, il était un homme comme nous. Il nous est donc possible de suivre ses enseignements. Et pourtant, les non-croyants de son époque s'étaient opposés à lui avec justement comme argument qu'il était un simple être humain. Le Coran dit, et ils disent, qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et qui circule dans les marchés ? Que n'a-t-on fait de descendre vers lui un ange qui eût été un avertisseur en sa compagnie ? Où que ne lui a-t-on envoyé un trésor ? Où que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger les fruits ? les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Les opposants à la religion disaient, comment se peut-il que celui-ci soit un messager alors qu'il mange comme nous mangeons, il boit comme nous buvons et il fait du commerce dans les marchés. Mais cela était bien évidemment dans l'erreur, car Allah a eu la sagesse de nous envoyer un homme afin que nous soyons capables de le suivre. Aussi, certains de ses compagnons tentèrent de s'adonner à des adorations au-dessus de celles que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait. L'un d'eux dit « Je ne prendrai jamais d'épouse, sous-entendu, pour mieux me consacrer à Allah. » Un autre dit « Moi, je prierai toutes les nuits. » Un troisième dit « Moi, je ne mangerai jamais de viande. » Et le dernier dit « Moi, je jeûnerai tous les jours. » Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut mis au courant, il déclara « Quant à moi, je me marie, je mange de la viande, je prie la nuit, mais je dors aussi, je jeûne parfois. » Et parfois, je ne jeûne pas. » Et il termine sa déclaration en disant, « Quant à celui qui s'écarte de mes enseignements, de ma sunna, il n'est pas des miens. » Allah nous dit dans le Coran, « Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et nous leur avons donné des épouses et des descendants. » Première conclusion, mes frères, la sagesse divine a voulu qu'il soit un être humain comme nous et non un ange. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne connut jamais son père, puisque celui-ci mourut avant sa naissance, et il perdit sa mère alors qu'il était encore un enfant. Le prophète grandit donc en tant qu'orphelin. Il ne possédait aucune richesse, aucune terre, au contraire, il gardait les troupeaux des autres. L'empereur romain Héraclius dira de lui, « Si l'un de ses parents avait été un roi, je me serais dit qu'il réclame la royauté due à sa descendance. » Mais cela ne fut pas le cas. Allah l'a choisi orphelin. Il n'était pas une figure dans son peuple. Il n'avait ni descendance, ni richesse. Il était simplement un orphelin de Mecca. C'est comme cela qu'en a décidé la sagesse divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire, mes frères. Il était analphabète. Il fut envoyé ne sachant ni lire ni écrire. Il avait l'habitude de rendre visite à ses amis, et en particulier à un compagnon qui s'appelle Khabbab. Khabbab vivait en Arabie, mais il n'était pas arabe. Il avait du mal à prononcer les lettres arabes. Il avait pour activité de fabriquer les épées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait le voir de temps en temps, lui transmettait le message de son seigneur. Les non-croyants de Quraysh saisirent l'occasion et se mettaient alors à faire circuler l'information que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour professeur Khabbab. Ils prétendaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait apprendre le Coran de Khabbab. Subhanallah, mes frères, comment une personne qui ne maîtrise pas la langue arabe peut-elle enseigner le Coran? Mais la réponse du Seigneur ne tarda pas à venir. Le Coran dit, et nous savons parfaitement qu'ils disent, ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran. Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère. Ce n'est pas la langue arabe. Alors que celle-ci, sous-entendu la langue du Coran, est une langue arabe bien claire. Khabbab savait à peine prononcer les lettres en arabe. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un arabe vivant en Arabie depuis sa naissance. Et les opposants à l'islam de Quraysh osait prétendre qu'il lui rendait visite le matin et le soir pour apprendre de lui le Coran et la religion islamique. Ils allaient même jusqu'à dire que ce qu'il se racontait n'était que des vieilles légendes racontées par les anciens. Mais là aussi, Allah le Très-Haut leur répondit en disant, et ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On les lui dicte matin et soir. Dis, l'a fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et dans la terre. Et certes, il est celui qui pardonne, le miséricordieux. Oui, mes frères, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé, ne sachant ni lire ni écrire. Et pourtant, il nous a restitué les paroles divines, sans oublier ou sans déformer, ne serait-ce qu'une seule lettre, parce que Allah descendit le Coran directement dans son cœur. Et lorsqu'il faisait un sermon, ses paroles étaient précises et explicites. Il n'hésitait jamais sur un mot. Il ne bégayait jamais sur une syllabe. Et tous les livres, les savants et les érudits dont nous disposons aujourd'hui sont l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour conclure, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam présidait la prière devant les compagnons et leur disait « Alignez les rangs, ne vous divisez pas, car certes, je vous vois derrière mon dos. » Il alignait les rangs et en même temps, il pouvait voir derrière lui. De la même manière, il dormait la nuit, mais pas avec le même sommeil que nous. Il disait à son épouse « Oh Aïcha, l'œil dort, mais le cœur ne dort pas. » Tel était le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est de notre obligation vis-à-vis de lui, de vivre dans la loyauté et la sincérité, et non pas de vivre avec la distraction de ce bas monde seulement. Car il faut savoir que ce bas monde glorifie et honore ceux qui l'aiment, mais lorsque ceux-là meurent, le bas monde les maudit. Quant à nous, nous vivons avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de tous nos sens et dans tous les domaines de la vie. Il sera toujours pour nous une miséricorde, un modèle, un imam, même dans les plus insignifiantes de nos activités. Il nous a enseigné toutes les choses dont nous avons besoin dans cette vie. Comment se purifier et comment se vêtir. Quelle manière adopter dans la démarche, dans le discours, dans la visite. Comment se comporter dans l'aisance et dans le besoin, dans la tristesse et dans la fête. Dans tous les domaines de la vie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre exemple. Mes frères, mes sœurs, notre capacité à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se matérialise par le suivi que nous accordons à ses enseignements. Nous ne devons pas prétendre le suivre d'une part et mettre de côté sa vie et ses enseignements d'autre part. Lui donner notre amour d'une part et enterrer sa sunna d'autre part. Au contraire, nous devons faire revivre sa biographie par nos efforts quotidiens, notre détermination à prescrire le bien, à proscrire le mal, à répandre le savoir, à patienter dans l'adversité, à propager la vertu et à réprimer le vice. Tels sont les traits de l'amour que nous portons au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa salatu wa salamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.